Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous, c'est lundi. Alors voici ce qui vous attend pour cette semaine. Bande annonce.
Mon père, il m'a dit que tu connaissais des super-héros.
Voilà, c'est un caviste, un peu un homme qui a été blessé par la vie, qui picole pas mal, même trop d'ailleurs, ce qui inquiète son docteur.
Que voyez-vous sur ce dessin?
Il y a des gens tout nus qui tirent à l'arc.
Quelle indignité.
Je connais pas les super-héros.
Ignoble mensonge.
Chut, non!
T'es un otage, tous tes enfants.
You stop, you die. You understand?
Retenu par 4 terroristes entre la France et la Somalie.
Et c'est la différence entre l'optimiste et pessimiste. Le pessimiste, il dit ça peut pas être pire, et l'optimiste, il dit si, si.
Tu connais pas Spider-Man?
Mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise.
Bien, bonsoir tout le monde! Garde de l'énergie, j'aime ça!
Je pense qu'on va faire quelque chose de très intéressant.
Je chéris ton cœur, adoré.
Elle a raison, Julie Gayet, ce sera très intéressant. Elle sera notre invitée mercredi avec Bertrand Belin en live. Terrorisme à Djibouti demain avec le réalisateur Fred Grivois à ses côtés, Dedo de l'ex-Jamel Comedy Club. Sarkozy en BD et en débat, ce sera aussi mercredi. Puis Bernard Campan jeudi pour finir la semaine. Mais tout de suite, nos invités sont Arturo Brachetti, Elsa Lamiel.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre énervé du soir, on est très heureux, un peu enrhumé pour vous retrouver ce lundi, et cela à double titre, puisque vous pouvez nous écouter, oh Christophe, vous êtes, oh mais vous en rajoutez, oh non, on s'arrête là, très bien, puisque vous pouvez nous écouter dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, et puis sur l'antenne, 22h minuit, à l'antenne comme tout le monde, ce soir, une émission qui a du corps, avec Arturo Brachetti en solo, ou presque, pour celui qui est entré au Guinness World Records, avec moins de 2 secondes pour changer de costume. Le roi du quick change est avec nous ce soir pour fêter aussi 40 ans de carrière. Ça sera en mars prochain. Arturo Brachetti, bonsoir.
Bonsoir. Buonasera.
À vos côtés, Elsa Amiel, réalisatrice pour son premier film Pearl. Gros plan sur le monde de compétition bodybuildé. On y suit Pearl qui concourt pour le prix de Miss Even. Concentration extrême, mais le passé ressurgit. Le scénario va se muscler. Elsa Amiel, bonsoir.
Bonsoir.
Puis rendez-vous bien sûr avec Soro Solo, comme chaque lundi, pour l'Afrique en solo, la chronique. Ce soir, on part du côté de...
Nigeria, pour jeter une petite oreille sur l'une des grandes créations musicales post-indépendance, l'afrobeat de Fela Anikulapo Kuti.
Ce sera à la fin donc de cette première partie. Dans le NRV, la suite ce soir... Eh bien, 2 présidents pour 3 crises au Venezuela, mais rien ne va plus, Christophe Bourseiller.
Écoutez, on voit double, je vois double au Venezuela, je ne sais plus où j'en suis. Vous non plus, on n'y comprend rien. Peut-être qu'on comprendra encore moins à la fin du débat, mais ça, c'est un peu la règle du jeu avec nous.
J'espère pas.
Mais on essaie quand même d'éclairer les choses avec des gens à peine engagés, ou en tout cas très engagés. Donc il y aura Maurice Lemoine, journaliste au Monde Diplomatique, qui est plutôt... Enfin bref. Sarah Suarez, photographe... vénézuélienne, Luis Colasante, économiste vénézuélien, et Pedro José García Sánchez, universitaire vénézuélien, voyez-vous.
Tiens.
Sauf, ils seront tous vénézuéliens, sauf nous, en gros.
Et Maurice Lemoine.
Ah oui.
Le NRV, c'est parti.
Il est d'origine vénézuélienne.
Ah bon ?
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Allez, une émission en forme ce soir pour commencer la semaine avec vous deux, Arturo Brachetti, Elsa Amiel. Premier long métrage pour vous, Elsa Amiel, avec Pearl. On va rentrer tout à l'heure dans le monde des compétitions bodybuildées. Arturo Brachetti, ça fait 40 ans de spectacle. Le cinéma, jamais.
Oui, oui, j'ai fait un seul exploit au cinéma dans les années 80. C'était Clémentine Tango, un film culte. Oui, qui s'est resté plus qu'une année à l'affiche à Paris. Et puis bon, c'est fini. Enfin, c'est fini. Ma carrière est finie.
Mais c'est terminé du jour au lendemain à cause de ça?
Mais non, parce que j'ai fait des tournées de théâtre.
Oui, partout.
Alors,
vous n'avez plus le temps pour...
Des fois, ils te disent, tu veux faire un rôle dans un film le prochain mois? Non, je suis, je sais pas, en Italie, en Espagne, etc. Et alors, au bout de 2-3 fois, ils ne t'appellent plus.
C'est pour autant, je vous ai vu, enfin, j'ai vu que vous aviez tourné quelques séries aux États-Unis.
Oui, bah oui, c'était une expérience
ouais.
Chez les Warner Brothers.
Ouais.
Bah c'était la chose plus superbe, c'est passer le gate, tu vois, avec le type de la police de la Warner Brothers et se garer à côté du studio. Ça fait très Norman Swanson, tu vois, dans Sunset Boulevard. Tu vois.
Quand vous jouez dans ces séries, oui. Vous jouez votre propre rôle ou vous avez
non,
vraiment...
Non, je faisais le rôle d'un costumier de Las Vegas. Oui, mais c'était une expérience incroyable. J'ai jamais dans ma vie très peu travaillé comme cette période-là.
C'est-à-dire?
Bon, parce que, on fait rien, écoute. Par, par rapport au théâtre, tous les jours, ben, les répétitions, le spectacle, là. On se voit lundi, on lit le scénario. À midi, à une heure, c'est fini. Hello, bye bye, see you tomorrow. Quoi? On a travaillé une heure, mais qu'est-ce que je fais là? Hein? Tu vas à la piscine, tu fais, oui, au bout d'aller à la piscine 4-5 fois, bon. Puis à Los Angeles, oui. C'est le World Capital of Entertainment, mais on s'ennuie terriblement parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de choses à voir. Il y a 3 théâtres gros, 4 théâtres petits, il y a du cinéma comme partout, et puis bon, c'est tout. Tu vas à Santa Monica, tu vois. C'est un peu bizarre. Mais moi, en étant italien, j'avais beaucoup de temps libre, je faisais les tours dans tous les studios à côté. Alors, il y avait un studio plein de bodyguards, parce qu'il y avait Monsieur Spielberg qui faisait le, Intelligence IA, le film. Ouais. Et surtout, je vois, il y a derrière plein de petites maisons que tu reconnais, ah, celle-là, c'est dans ce film-là. Et tu sais que tous les scénarios, tous les décors, c'est fait en 7/8. Tu connais ça?
Ah non, 7/8, c'est-à-dire.
Ça veut dire que toutes les ambiances et toutes les maisons sont un peu plus petites que normal. Comme ça, l'acteur, on dirait qu'il est plus grand.
Ah, c'est parfait pour Tom Cruise.
Oui, c'est pour ça. Mais il y a toujours l'escabeau qui attend pour lui.
La scène, le monde du spectacle, vous connaissez Elsa Lamiel?
Eh bien oui, moi je suis fille de mime. Donc j'ai...
Son père était mime.
Oh, ouais. Fantastique.
Oui. Et donc j'ai grandi dans les tournées, enfin dans les théâtres, en tournée avec mon père vraiment autour du monde. Et j'ai été formée à ça. Je passais beaucoup de temps dans les coulisses, quelquefois plus qu'à l'école, certaines années.
C'est très éducatif quand même.
J'adorais ça. Et puis c'est vraiment, j'ai appris à travailler là-bas et j'ai appris, toute ma sensibilité, elle vient de là et de l'art du mime.
Vous avez fait un peu de mime vous aussi?
Oui, mon père m'a initié au mime, oui. Et puis voilà, j'ai choisi
ma voie.
Vous aviez
des trucs préférés dans le mime?
En mouvement, vous voulez dire?
Ouais.
J'adorais ce que j'appelais le labyrinthe, c'est-à-dire de...
Ah oui,
poser les mains,
mains, faire pour qu'il y ait une vitre, pas pouvoir passer, etc.
Mais ce que je préférais, c'était être en coulisses et voilà, j'assistais vraiment mon père. C'était un travail de régie, d'accessoirisation. J'avais un petit numéro avec lui aussi. J'adorais ça.
Qu'est-ce que vous faisiez avec lui?
Alors, il y avait 2 numéros. Il y avait un numéro que j'avais écrit où je racontais une rencontre. Ça c'était avec des masques neutres, donc c'était vraiment le langage du corps. Et j'avais un numéro avec lui qui s'appelait Love Story. Il y avait un paravent noir comme ça sur scène et tout le numéro c'était des doigts qui se déplaçaient
le long du paravent
et ça racontait une histoire d'amour entre les doigts et moi j'étais les petits doigts qui naissaient à la fin.
Comme c'est mignon.
N'est-ce pas?
C'est mignon.
Vous avez fait du mime, Arthur
Brachetti? Oui,
Ah oui, vous aussi.
J'ai un numéro de mime que je fais de temps en temps. Oui, il s'appelle Avec rien on fait tout. Et je mime un bout de rien de, je sais pas, 80 cm de rien.
De rien.
Et qui devient 25 objets. Un archet de violon, une épée, avec des sons qui. Et je l'ai hérité par Bernard Allaire, un comédien français.
Ah oui, d'accord. C'est lui qui vous l'a appris.
Oui, il faisait des numéros de 2 minutes. Moi, j'ai ajouté beaucoup de bandes sonores, d'autres bruits pour faire 4 minutes, alors ça devient vraiment beaucoup, beaucoup d'objets, 25 objets, et les gens suivent, tu vois, et c'est la puissance du mime, c'est que les gens, surtout les jeunes, sans Internet, sans le téléphone, sans tout, ils sont obligés de voir des choses qui ne sont pas là, ou d'imaginer un monde autour, et ça lui fait seulement du bien, n'est-ce pas?
Ouais, ça les implique, quoi.
Ben oui, alors, tu sais, maintenant, tu veux le dragon, tu l'as dans le téléphone, tu vois l'explosion, c'est là, tu vois, c'est nul, ça.
Vous avez reçu le Mandrake d'or.
Oui.
Ce qui est l'équivalent,
oui,
on va dire,
Molière,
de l'Oscar.
C'est beaucoup mieux.
Le Molière aussi, mais le Mandrake d'or, c'est pas mal pour les illusionnistes.
Ben, oui.
Mais pour un numéro précis ou pas?
Non, pour la carrière.
Pour l'ensemble de la carrière.
Oui, on le donne avant que tu meurs, tu vois, des prix comme ça. Mais le prix le meilleur, c'est la statue du cire au musée Grévin. S'il y a un statut de cire, en plus qu'il...
Votre oui, statut, oui. Arthur Brachetti, au musée Grévin à Paris, oui.
Paris, à Montréal, à Prague et à Vevey en Suisse.
Et elle est particulière.
Oui, parce qu'elle tourne sur elle-même, elle change de costume. Le jour, la nuit. Bon, il fait que 2 costumes, il les fait quand même 2000 fois par jour. Alors, elle me bat sûrement sur la multiplication.
Et quels sont les costumes que vous lui avez mis?
Le jour et la nuit. C'est un jour, c'est devant cela, le jour, si on va dire, avec le soleil. Derrière, c'est la nuit avec la lune et les étoiles.
On va parler bodybuilding aussi dans quelques instants avec vous, Elsa Lamiel. Petite question. Là, c'est votre premier long métrage et au centre du film, c'est une femme qui fait des compétitions de bodybuilding. Premier court métrage, c'était sur un homme. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce monde pour que ce soit votre milieu de cinéma?
Bah, c'est le corps, hein. C'est vraiment le point de départ de ces deux projets-là, c'est-à-dire la question de la représentation du corps et même le corps comme identité. Donc voilà, il y avait La Boxe, qui était un film que j'avais écrit d'ailleurs pour mon père, c'était mon père qui jouait. Et puis là, j'ai découvert le monde du bodybuilding par un heureux hasard au moment justement où on cherche un sujet pour son premier long métrage. Et de façon assez naturelle, je suis allée vers le corps et vers ce corps extrême-là.
Alors, j'ai pu comprendre que la catégorie bodybuilding était interdite aujourd'hui pour les femmes. C'est-à-dire que ça n'existe plus pour les femmes. Pour
alors,
quelle raison?
En Europe, en tout cas, c'est-à-dire que les fédérations de bodybuilding ont décidé d'arrêter cette catégorie parce qu'ils estimaient que ça donnait une mauvaise image de la femme.
Et ils ont décidé ça quand?
Je dirais, moi, c'était pendant l'écriture, donc je dirais 4 ans. Et voilà, donc c'est-à-dire que maintenant, c'est les hommes qui ont le droit d'être forts.
Forts et musclés, et les femmes, plus du tout.
Et les femmes doivent être belles. Belles sous-entend la catégorie qui se développe énormément, qui est la catégorie bikini.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, ce sont des jeunes filles voilà, avec des jolies formes féminines. Et elles sont très nombreuses aussi. C'est aussi, ça rapporte plus d'argent. Cette catégorie rapporte plus d'argent. Il y a plus de cotisations.
Mais en tout cas, il n'y a plus d'histoire de muscles à ce moment-là et de développement du corps.
Non, c'est ça. C'est plutôt une hygiène de vie, oui, c'est ça, d'être.
Et c'est l'Europe qui a interdit ça. Et dans
c'est
les
fédérations européennes. Disons que les États-Unis ont encore gardé la catégorie bodybuilding. C'est plus dans la culture, je crois aussi, vraiment, le Pickers and Life, c'est pour tout le monde. Mais en Europe, effectivement, ils ont arrêté. C'est-à-dire que la catégorie de Julia Fury, qui donc joue Léa Pearl dans le film, c'est la catégorie juste en dessous, c'est-à-dire Women's Physique. Et ils ont demandé à ces athlètes-là, qui sont très musclés, de pousser la féminité, c'est-à-dire maquillage, coiffure, bijoux, maillot de bain à paillettes. Enfin voilà, ça c'est la féminité.
Ah, c'est pour ça qu'il y a tout cet attirail, en effet, c'est presque bon. De patinage artistique pour cette...
J'en
ai fait du
chaud,
patinage, donc je peux vous le dire, je sais de quoi je parle. Arturo Brachetti, quand on se prépare au spectacle, ça fait 40 ans que ça dure, on fait de la musculation, on fait des exercices.
on fait des exercices, oui, je parle de la musculation. Parce que... Mais quand même, quand j'ai des périodes creux, surtout, je fais vraiment 3 jours par semaine le gym, 2 fois par semaine le coach, et puis des fois, très souvent, je me mets en caleçon devant le miroir à 1h la nuit et je fais de la gym. Avec l'application maintenant, il y a des applications.
Oui, je sais, en 7 minutes, on
7
peut...
7 minutes workout, voilà. tout peut le doubler.
On connaît les mêmes choses.
Oui, en plus, il t'insulte.
Oui.
Yes, 4, 3, 1, 2 more, come on. Tu vois, mais ça marche.
Mais ça marche. Aussi.
Et puis, je me mets en caleçon, comme ça, je vois les petits bourrelets qui dépassent. Alors, ça me motive devant le miroir, tu vois.
Pour pouvoir sécher, comme on dit dans le film de
sécher,
d'Elsa
oui.
Amiel.
Ah, sécher, c'est mon rêve, sécher tout le temps, oui.
Alors, pour faire plus amplement connaissance, on vous a demandé des sons qui ont marqué votre parcours, votre vie personnelle. Un son de cloche pour vous, Arturo Brachetti. Qu'est-ce qu'on entend?
En plus, c'est la bonne cloche.
C'est-à-dire la
oui,
cloche du...
la cloche du séminaire.
Eh oui.
C'est pas les cloches de Saint-Pierre, c'est les cloches du séminaire. Parce que j'ai passé quand même 6 ans, 7 ans presque au séminaire, entre 11 et 17, j'ai appris les tours de magie là, parce qu'il y avait un prêtre qui faisait les tours de magie. Alors cette cloche est très, très familiale pour moi.
Qui vous a envoyé au séminaire?
Mon papa, parce que bon, il a raté le séminaire pour la guerre, et bon, il dit, bon, oh, le petit enfant, il est tellement mignon, gentil, un peu timide, un peu coucou, tu vois, comme ça, un peu pigeon. Alors moi, on m'a amené au séminaire, mais surtout pour être obligé à jouer avec les autres, parce que j'étais encore vraiment très timide. Et les tours de magie m'ont fait sortir de la timidité, et maintenant je suis plus timide du tout, tu vois. Le théâtre,
mais pour autant, vous aimez bien réapparaître dans un costume de prêtre.
Ah, oui.
Très souvent, et encore dans le dernier spectacle, j'ai pu voir que ça y était.
Oui, mais surtout dans la vie. Je me déguise en prêtre dans la vie, pour que quand je m'ennuie, donc, dans les périodes de vacances, soi-disant, je me déguise en prêtre, je sors de la maison, je vais chez le pharmacien demander du Viagra, mais pour faire rigoler le pharmacien.
Bah oui, parce qu'un prêtre avec la loupette que vous avez.
Non, mais j'ai une super perruque de cinéma.
Ah, il y a une perruque aussi, ah d'accord,
oui,
c'est carrément le travestissement.
Je piquais à Jean-Paul Belmondo au théâtre Marigny, genre, c'est une super histoire, là, ma perruque.
Quoi? Qu'est-ce que vous avez?
Non, calme. Alors, j'ai pas pu. Moi, je suis arrivé au théâtre Marigny en 2000 et j'avais naturellement la loge numéro 1 parce que, c'était le seul one man show. J'étais l'artiste. Et avant moi, il y avait Jean-Paul Belmondo qui faisait l'Othello. Donc, je ouvre un tiroir et il y a plein de perruques. Donc, une de cinéma fantastique. Les perruques du cinéma, ça coûte 3 000 euros. C'est super bien fait. Tu vois pas que c'est une perruque même à 1 mètre de distance. Et je dis, ah, tiens, Ils ont oublié des perruques. Ah là, la couturière, elle dit, ah oui, c'est Jean-Paul. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces perruques? Ah, je sais pas, ils vont peut-être venir les reprendre, peut-être. Alors, en étant italien, moi, j'ai tout de suite changé. j'ai changé de tiroir de la perruque, mais je l'ai pas piqué. Après 2 mois, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec cette perruque? Et la couturière m'a dit, j'ai rien vu, tu vois. Alors, j'ai dit, bon, je l'ai réédité. Je l'ai fait, comment dire,
réadapté,
parce que j'ai une tête plus petite. Et c'est une super perruque, on voit pas que c'est une perruque.
C'est blond, c'est quoi, c'est
brun? Non, c'est un peu comme un portugais, tu vois, un cheveu un peu frisé, un peu avec un peu gris sur les bords. Enfin, ça me va très bien. Et je mets ça avec des lunettes un peu années 70 et un costume noir bien, tu vois, usé. Et j'ai le col professionnel du prêtre et je sors. Et des fois, on m'arrête avec la voiture et on me dit, oh, monsieur le père, vous pouvez y aller, même si je suis passé à 70 à l'heure dans un centre historique, tu vois.
Un autre son pour vous, Elsa Amiel.
On m'avait dit que j'aurais mon premier interview et on m'a dit que je ne devais pas dire que j'avais un enfant parce que comme je serais le grand vamp, quand on dit, de la Paramount, on a dit que ça ne va pas avec le rôle de la mère. Alors quand j'ai vu cette dame qui était là pour avoir l'interview, elle m'a dit, j'ai entendu que vous avez une petite fille et j'ai dit oui. Et alors, on m'a dit après qu'on me renverrait en Europe parce que je n'obéissais pas. Alors j'ai dit, alors renvoyez-moi parce que je ne peux pas mentir comme ça. Et comme le film était un grand succès mondial, tout d'un coup, c'est devenu la mode d'avoir des enfants. Les actrices sortaient leurs enfants cachés, les actrices adoptaient des enfants, et c'était la grande mode de se faire photographier avec les bébés.
La voix de Marlène Dietrich qui raconte son passé de mère difficile justement à Hollywood, Elsa Amiel. Pour quelle raison?
Bah alors cette voix de Dietrich, je trouve ça magnifique. Et puis ce qu'elle raconte, ça fait partie des entretiens qui ont été diffusés d'ailleurs sur France Culture, qui sont absolument passionnants. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant et que ça résonnait avec mon film aussi, justement la question de la maternité, de la femme, de ce qu'on attend d'une femme, de ce qu'on attend d'une actrice, qui là, elle semble ne pas mettre justement comme toutes les femmes. Évidemment, on doit cacher qu'on est mère,
ouais, qu'on a un enfant. Et ouais. C'est le cas aussi pour Pearl dans votre film.
Oui, qui a un peu un autre schéma, puisque elle a été mère et en fait, elle n'a pas voulu être mère. Et tout le film raconte comment la mère va ressurgir, le sentiment de maternité et puis juste le fait d'être une femme et de s'assumer en tant que femme.
Eh bien ça, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie du Énervé. Tout de suite, je vous propose d'écouter un rappeur bizarre. Il est anglais, c'est Loy Carner. Il a dédié un premier titre au chef végétarien Otto Lenghi et cette fois, il s'occupe de sa maman. Vous voyez cette circonstance. I Don't Know sur France Inter.
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know. You don't know what I'm looking for.
It all started when you were here above. Before I had a favorite love. Before back when I adored, but now I'm fearing love. Before every other fella I was hearing love. Back when the day would fade to grey when you were fearing love. Cause now I only made love if I'm in love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in stuff. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry nuts that I bust. Knowing you only went down to so what the fuck is up?
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lagging, worry about them brothers lagging on you. They're sliding on you, bump and grind every night upon you. Getting slag upon you, crag upon you, then get tired of you. Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? Closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it now, forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. Should've kept it clean.
You should have kept it clean. Son. You should have kept it clean. No regret, can't forget the shit you seen. Should have kept it clean. You should have kept it clean. You should have kept it clean. You should have kept it clean. Not me.
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
You Don't Know, signé Loïc Carner. Il sera en concert le 14 mai au Point Éphémère à Paris. Une programmation Je sais tout de Jean-Baptiste Libert.
Bienvenue dans ma maison.
Le nouveau rendez-vous.
C'est une maison sans lieu et sans temps, qui n'est habitée que par mes personnages, mes rêves, mes surprises.
Laurent Goumard.
Un endroit enchanté, extraordinaire, où le dessus devient le dessous et les escaliers descendent pour monter.
Sur France Inter.
Arturo Brachetti qui fait visiter sa maison, ce sera à partir de mercredi jusqu'au 3 février au Comédia à Paris, puis la tournée qui reprend dans toute la France. Fait visiter sa maison, souvenirs d'enfance, les séries télé. Combien de personnages vous avez créés pour ce
solo? 60.
Ouais. 60.
60 nouveaux personnages.
60 nouveaux personnages.
Dans qui les... s'ajoutent aux autres 390.
Voilà, c'est ça.
Ça fait 450.
450 personnages.
C'est beaucoup d'enfants. Heureusement qu'ils ne mangent pas tous les jours. Mais...
Quel est le premier personnage que vous avez créé?
Le tout premier, oula, parce que j'avais 15 ans, je me déguisais, il faut faire les tours de magie, alors je faisais un indien, chinois, mais on va dire le premier numéro sérieux avec lequel je suis arrivé au Paradis latin pour faire l'audition, j'étais une chanteuse lyrique wagnérienne, une valkyrie, avec une tête de mort dans la main, voilà. Ouais,
c'est... 40 ans de spectacle. Vous allez fêter l'anniversaire, oui. Ça sera en mars prochain. Ça date de quand, ces 40 ans de spectacle? C'est le Paradis latin?
Le Paradis latin, quand je commençais à la nuit de Pâques de 1979, avec Jean-Marie Rivière.
Avec Jean-Marie Rivière, avec oui. Marie-France, j'imagine,
oui,
qui est arrivée plus tard aussi.
Et puis, il y avait plein de... Tous les semaines, il y avait des gens incroyables qui venaient voir le spectacle. Il y avait Béjart qui venait presque tous les mois, c'est sûr, pour amener ses copains, pour voir mon numéro en plus, tu vois.
Et votre numéro consistait en quoi, exactement?
Six personnages que je faisais. Ça commençait comme la chanteuse lyrique wagnérien, puis je devenais My Fair Lady, puis une femme années 30, puis un directeur de cirque, puis le personnage du cabaret, afin à derrière un drapeau, je devenais en blanc, un frac blanc. Et voilà, je suis arrivé à Paris avec les valises, vraiment comme un immigré, hein, tu vois. J'étais un quart d'heure devant à la gare de Lyon pour comprendre comment ça marchait ce putain de train souterrain que tout le monde appelait métro, tu vois. C'était vraiment un campagnard qui arrive dans la ville. Et voilà.
Et comment vous étiez formé auparavant à ce qu'on appelle le quick change?
Ben, j'ai inventé parce que quand j'avais 15 ans, 16 ans, et je rêvais de devenir ça, j'avais lu un livre sur Fregoli.
C'est Fregoli, voilà, c'est
Fregoli,
ça.
Oui, le grand maître. Mais tu sais, dans ces livres, on ne voit que des photos et on raconte qu'il, bon, il y avait la bande municipale qui l'attendait à la gare, tout, des belles choses comme ça, mais pas les trucs. Alors, je me suis dit quand même, comment on peut? Alors, j'ai adapté aux vêtements, les tours, les systèmes de tours qu'on utilise dans les tours de magie.
C'est-à-dire?
Ah oui, comme je change de couleur d'un foulard, je change de couleur d'un vêtement. Et je fais des expériments et en 1979, j'étais le seul au monde vivant de faire ça. Parce que...
Maintenant, il y en a.
Oh, putain. Oh, je dis que le gros mot. Mais il y a beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, il y a personne, surtout dans le cirque, dans les variétés, mais il y a personne qui raconte une histoire, personne qui fait un spectacle entier. Moi, j'utilise la transformation pour créer des moments poétiques ou drôles, enfin, des autres choses. Qui c'est du vrai théâtre. Par exemple, les 4 saisons, je fais les 12 mois de l'année, les 7 péchés capitaux, les parodies de l'opéra. J'ai plein de numéros qui ont un sens. Là, par exemple, dans le spectacle, il y a un numéro sur les personnages de la télévision.
De la télévision, alors, donc vous faites défiler.
Oui, Batman, Wonder Woman, Uncle Fester, et tout ça. Il y a le numéro sur la musique. Alors, Pavarotti, Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna, Freddie Mercury, Edith Piaf, je l'ai déjà dit. Les 4 Beatles, tu vois. Il y a des thèmes. Alors que mes collègues, soi-disant, ils font 1, 2, 3, rouge, 1, 2, 3, un vert, 1, 2, 3, bleu. Au bout de 5 minutes, tu dis, bon,
on a compris, ce sont des gros
jeux. Qu'est-ce que tu nous racontes d'autre?
Au départ, combien de temps mettiez-vous pour les changements de costume?
Au départ, j'étais plus lent. Ça faisait 5 secondes, 6. Là, je fais 4, des fois, même 1,5, comme il dit le Guinness Book of Records.
Ouais, c'est vrai.
Alors, 1,5, c'est vraiment une connerie. Tu fais tic, tic, avec la montre, c'est déjà fini. Hein.
Alors, je voudrais vous faire entendre un son que vous nous avez demandé et qui peut-être donne un renseignement, mais si pauvre, sur votre talent.
Ah oui, c'est le son qui me hante toute ma vie, le velcro. Ouais. Le velcro. Mais tu sais, j'ai découvert le velcro quand j'étais très petit, 1963. Je me rappelle très bien qu'avec ma grand-mère, on était dans une mercerie et la madame, une belle madame félinienne, tu vois, les gros seins, les belles blondes maquillées, tu vois. Vous savez, de l'Amérique, c'est arrivé ça, strac. Ça s'appelle le velcro. Et on met ça à la place de la fermeture éclair.
Bien sûr, oui.
Alors ma grand-mère, elle achetait un bout de ça, qui c'est le velcro, et il me l'a mis à mon pantalon sur ma braguette. Seulement, on le fait pas, parce que ça gratte énormément quand il y a besoin. Alors après une semaine, je dis, maman, ça me fait mal, ça. Alors elle a enlevé. Par contre, je l'utilisais, bien sûr, dans tous les premiers costumes que j'utilisais, j'utilisais beaucoup de velcro.
Et aujourd'hui, vous avez d'autres techniques?
Oui, ouais. Les autres techniques, un peu plus, moins arrachantes, parce que le velcro, tu sais, ça gratte la peau, hein.
Oui, puis ça peut même arracher le tissu.
Le tissu, la soie, c'est terrible. Alors, mais quand même, le velcro, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie. Et c'était un peu le leitmotiv pour beaucoup d'années.
Qui faisait vos costumes au départ?
Mais je les faisais faire par des couturiers de théâtre. Et moi, je les suivais jour par jour. Je disais aux couturiers, il faut pas fermer là, vous laissez ouvert. Mais ça tient pas. Je dis, mais t'inquiète pas. Et voilà, il faut le suivre parce que c'est comme ça, les pauvres, les couturiers.
Et encore aujourd'hui, c'est toujours...
Oh, toujours. Le dernier spectacle solo, j'ai passé 2 mois pratiquement dans l'atelier. Et les essayages de costumes, c'est très long des fois. C'est 5-6 heures avec, tu vois, debout avec des costumes, on te mesure, bouge comme ça, bouge comme là. Ah, ça s'ouvre, merde, non, il faut rembourrer ça. Puis la vengeance de la couturière. Tu sais ce que c'est?
Non.
Alors les pauvres bonnes femmes qui coulent les costumes, alors... Ils passent des journées en disant « Merde, ce braquetti, ah là là, nanana !» Alors, ils oublient, comme par hasard, des aiguilles dans les costumes. Et l'aiguille, il a une propre vie. Alors, surtout dans les costumes avec de la mousse et tout, il rentre dans la mousse et il passe pendant des semaines, là. Et au bout de 2 mois de représentation, tu sens « Tchac !» On dit « Merde, qu'est-ce que c'est ça ?» Et c'est la vengeance de la couturière. Qu'il arrive, je sais pas, sur les côtes. En plus, à la fin du spectacle, tu sais pas lequel costume se venger, parce qu'il y a 60 costumes. Ça passe plusieurs jours. Alors, tous les jours, ça fait un trou en plus. Et à la fin, heureusement, on le découvre.
Quel a été le costume qui vous aura posé le plus de problèmes techniques et d'inventions, Arthur Braquetti, dans
cette carrière? Je pense que c'est un costume que j'utilisais pas beaucoup au National Theatre de Londres. Je faisais un rôle, pas un numéro, un rôle d'un soldat qui était revenu de la guerre 14-18, qui était un peu... rester un peu comme ça, tu vois. Cholchette, on dit en français. Je sais pas, en français, il y a seulement un mot. Tu vois, les gens qui revenaient de la guerre, je suis tellement choqué qu'ils n'arrivaient plus à parler.
Gueule cassée.
C'est ça, voilà. Alors, à un certain moment, il se rappelle de la guerre. Donc, il est là, bien en ouvrier. Et le costume, boum, ça changeait, ça devenait un militaire. Tout seul, sur scène, on entendait des bruits de guerre. Les bombes qui... Et lui, il y avait comme une bombe qui lui tapait dessus. Et dans cette fumée, il devenait sa mère, en noir, avec une bougie en main, qui criait son nom. Peter! Fin de la première partie. Tu vois, et je sortais de scène. Et personne n'applaudissait. C'était tellement l'émotion de voir ça. Et c'était tellement... flagrante la connexion entre le soldat et la mère qui l'attend, qui crie son nom, et la transformation, que c'était à vue, complètement à vue, extrêmement compliqué. Il fallait 20 minutes pour s'habiller, pour faire ce changement de costume. Et c'était tellement forte l'émotion, plus la surprise visuelle, que les gens y restaient 10 secondes comme ça. Oh! Et puis, au bout d'une demi-seconde, ils applaudissaient, ils disaient, mince. Et c'était justement pour démontrer, encore une fois, que la transformation, c'est un moyen pour raconter une histoire. Justement. Mais c'était un costume sacré compliqué. Hein.
Ça, je peux imaginer, mais s'il faut 20 minutes déjà pour pouvoir s'habiller, et donc pouvoir se changer à vue.
Oui.
Juste une dernière question par rapport à ce nouveau spectacle. Ça parle de votre maison, bien sûr, c'est une maison, on va dire, mentale.
Oui, la maison que tout le monde a dans sa tête. Oui.
Mais vous, justement, de quel milieu êtes-vous, Arthur Braquetti?
Alors, mon grand-père, ouvrier Fiat. Mon père... employé Fiat, donc un gradin en plus, et moi, rien de tout pour rapport à eux, je suis artiste. Quoi? qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand? Je dis, ah, le pape ou le metteur en scène? Je dis, c'est quoi le metteur en scène? Parce que, bon, bien sûr, le pape, tout le monde le voyait. En plus, il y avait le pape avec les, encore le Giovanni XXIII. Bon, Jean, tu vois, avec les éventails en plus.
Ah, oui,
faisait,
oui.
Ah oui, ça faisait... Ça
très
faisait,
Alcazar.
Oui, ça faisait, tu vois, tu vois, ça faisait revue, ça faisait Mistinguette. Moi, ça me plaisait beaucoup, ça. C'était le côté chorégraphique, c'était pas vraiment le côté religieux. Alors, dans l'attente, ils ont dit, ben, on va le mettre au séminaire, on va voir s'il va devenir pape. Eh bien, non, je suis venu de mettre en scène.
Le pape, vous l'avez joué?
Oui, dans un rôle à la télé italienne qui a été très controverse parce que, oh, le pape, avec des grosses mains. J'avais des gros, très grosses mains parce qu'elle bénédit tout le temps. Alors, j'imaginais dans le côté surréaliste que les mains devenaient immenses.
Arturo Brachetti, on va vous retrouver en solo. Ce sera à partir de mercredi jusqu'au 3 février au Comédia à Paris, puis une tournée qui reprend dans toute la France. Je vais donner quelques dates que j'avais notées. Il y aura Saint-Dizier le 5, Thionville le 6, Thonon-les-Bains le 8, Lyon le 9, Montélimar le 10, Monté le 12.
Oui, c'est la fin de la tournée.
C'est la fin de la tournée qui avait commencé déjà en 2018. Vous restez avec nous, on va parler de corps dans quelques instants, mais tout de suite du blues caribéen, celui de Delgrès dans le NRV. Ils sont nommés aux prochaines victoires de la musique le 8 février prochain. Respectez-nous dans le NRV.
Nous j'attends pour nous.
Rendez-vous, Laurent Goumard.
Mon père, il m'a dit que tu connaissais des super-héros. Tu connais pas les super-héros? Tu connais pas Spider-Man? Il y a aussi Hulk qui se transforme ont un gros truc vert, énorme et super musclé. Encore plus grand que toi et plus fort. Et toi, t'es plus forte ou moins forte que Spider-Man?
Plus.
Troisième athlète, Léa Pearl.
C'est vrai qu'elle est plus Pearl. C'est Pearl que l'on entend, Elsa Miel. C'est votre film, dans cet extrait donc, d'un film aussi plastique que son héroïne. Pearl sortira en salle mercredi prochain. C'est l'histoire d'une jeune femme blonde, sublime, bodybuildeuse et qui concourt au titre de Miss Heaven. C'est un vrai titre? Ça existe?
Non, c'est complètement de la fiction. Voilà, c'est... Non, j'ai tout inventé, c'est-à-dire je suis partie d'une réalité,
oui,
qui
sûr.
Est cette femme-là, qui est le fait qu'il y ait des compétitions dans les
mais
hôtels.
Mais Miss Heaven, ça n'existe
mais
pas.
Mais Miss Heaven, c'est vraiment Heaven Contest, voilà, la compétition du film.
Le film commence comme un huis clos. Pearl et son entraîneur Al sont dans un hôtel, l'Eden Palace, où se passe la compétition. D'abord, un mot sur cet hôtel avant de continuer, parce que vous le filmez, c'est très étrange, vous le filmez et les murs sont tapissés de plastique. Pour quelle raison vous avez transformé ce lieu presque en un lieu de cauchemar ou onirique, on dirait un paysage mental?
Oui, alors c'est parti d'une réalité.
Ah oui, quand même. Là,
ouais,
oui.
C'est parti d'une réalité, c'est-à-dire c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est de se dire, enfin dans les hôtels qui reçoivent les compétitions, en fait ils couvrent tous les murs de plastique parce que les athlètes sont recouverts d'un tan qui est un espèce de fond de teint assez huileux, extrêmement salissant. Et en fait les hôtels protègent tous les murs et tous les objets parce que sinon faut tout repeindre, faut changer le mobilier, tout ça. Et donc moi j'avais vu ça dans les compétitions et je trouvais que évidemment la matière fonctionnait
sublime,
formidablement.
Ouais. Très plastique,
voilà.
Quoi.
Très, c'est le cas de le dire. Et surtout, enfin, il y avait un côté épidermique comme ça, de se dire que ça fonctionnait aussi comme une seconde peau. Mmh. Et puis voilà, on peut travailler avec les brillances, le son, voilà, ça crée du souffle comme ça. Donc voilà, on a essayé aux essais caméra et on s'est dit.
Ça fonctionnait super bien. Ouais.
Oui, et puis il y avait l'idée du double enfermement aussi, c'est-à-dire que non seulement ces compétitions ont lieu dans des endroits périphériques, dans des no man's land, c'est-à-dire on les met à l'écart de la ville, toujours. Et en plus, on recouvre les murs. Donc je trouvais que ça faisait sens avec justement le monde du bodybuilding qu'on met vraiment à part. Voilà, c'est pas notre monde, c'est une autre planète.
L'hôtel où vous avez tourné, c'est un hôtel qui reçoit des compétitions ou c'est un lieu de tournage?
Alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment un hôtel. On a tourné en Suisse, principalement, et c'est un hôtel en fait d'hommes d'affaires et de compagnies aériennes. Voilà, qui fréquente cet hôtel. Donc là, il y avait un petit choc des cultures, évidemment,
parce
que vous imaginez.
Il y a tous les figurants,
en maillot de bain toute la journée.
En maillot de bain toute la journée, des filles sublimes, des mecs hyper baraqués. D'accord. Donc voilà. J'imagine que la cohabitation était plutôt.
Ils le savaient d'emblée, évidemment, quand ils ont accepté le tournage. Donc c'était, ça les amusait. Ça les amusait au début. Puis il y a eu un petit moment donné, évidemment, où la clientèle était un peu, chamboulée, peut-être excitée, peut-être. Enfin voilà, il y a eu un moment un peu comme ça où il fallait nous aussi privatiser, j'aime pas tellement ce mot, mais c'est vrai, des endroits pour se dire justement aussi, pour moi je me disais la clientèle ça ne doit être que le monde du bodybuilding.
Tout à fait, une sorte de huis clos où le corps est roi. Alors Pearl va se préparer à la compétition et elle doit sécher, c'est-à-dire elle doit perdre quelques grammes, quelques kilos. Et là, elle doit perdre 300 grammes et son entraîneur a la solution. Je vous laisse décrire cette solution qui est quand même très particulière.
Pourquoi moi?
Vous êtes la réalisatrice.
C'est-à-dire que là, je cherchais, comme on est toujours dans les extrêmes dans ce sport, je me suis dit que voilà, quelle serait la façon, plutôt que de monter sur une machine
et de faire des exercices,
voilà, de se couvrir juste et d'aller courir, voilà, où on peut chercher, jusqu'où on peut aller pour le résultat, uniquement le résultat. Et j'ai été frappée en allant dans les compétitions de bodybuilding qu'il n'y avait aucun désir. C'est-à-dire que tous les regards dans les coulisses, tout le monde est en maillot de bain, à moitié nu évidemment, tout le monde se regarde, il n'y a pas de désir du tout, il n'y a qu'un regard technique. Donc j'ai transformé la libido ou l'acte sexuel en acte technique. Et alors ça n'est pas vrai dans ce monde-là évidemment, mais je me suis dit voilà, poussons au maximum. Et puis ça raconte aussi évidemment l'emprise, le pouvoir du coach sur son athlète pour dire voilà, on peut aller jusque-là parce que ce qui est important en fait c'est le résultat, c'est pas l'acte.
Donc il va coucher avec elle pour pouvoir lui faire perdre quelques grammes. Préparation, concentration pour Pearl, mais un événement va bouleverser
j'espère
l'ordre de jeu.
Ça marche aussi pour nous. Hein.
Mais j'espère. Eh ben, on pourrait essayer de tenter ça.
Voilà, j'essaie de relancer le.
Donc on peut maigrir en baisant. C'est toujours ça qu'on peut apprendre.
Alors, quelque chose. Heureux, pas triste.
Un événement va bouleverser l'ordre des choses. Voilà que Ben, qui est l'ex-mari de Pearl, arrive avec un enfant, son fils de 4 ans, fan de super-héros. Et ce passé qu'elle a caché à tous refait surface. Pearl est une mère et ça pourrait bien changer l'enjeu de la compétition. D'abord un mot sur le casting. L'actrice est elle-même une bodybuildeuse. C'était impossible de penser les choses autrement.
Oh oui, 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 on l'a évoqué au début, évidemment, en production, on rêve de demander à une actrice d'avoir un travail comme ça de transformation et de se dire voilà, il faut vraiment avoir ce corps pour ce rôle. Évidemment, c'est impossible parce que c'est des années de travail, c'est un sacrifice énorme, des régimes extrêmement difficiles, un entraînement quotidien de 5-6 heures. Donc bon, aucune actrice ne pouvait faire ça. Et puis surtout, ça a des résultats irréversibles. Donc à moins de vouloir changer de carrière.
Oui, c'est ça. Voilà. Par exemple, Isabelle Huppert qui joue tout, si vous lui demandez de faire ça, c'est vrai que c'est fini.
Voilà.
Pour elle, pour le reste.
En tout cas, voilà. Sinon, après, peut-être peut développer parcours. Les films sur le bodybuilding féminin grâce à Isabelle Huppert. Voilà. Et puis, il y avait quand même quelque chose. C'était que moi, c'est pas du tout documentaire. C'est absolument
pas du tout.
Voilà. Absolument pas. Et je voulais pas le côté naturaliste. Et donc, voilà. La seule partie documentaire ou en tout cas de vérité, c'était
que l'actrice soit elle-même une bodybuildeuse.
Une bodybuildeuse. Donc, elle venait avec sa fragilité, mais elle venait aussi avec sa connaissance du monde et de ce monde-là et ses sensations, ses émotions, et c'était...
Oui, mais j'imagine aussi avec ses heures d'entraînement, avec ses régimes, etc., etc. C'est-à-dire oui. Que là, il a fallu adapter le tournage au fait qu'elle doit quand même s'entraîner combien de temps par jour?
Eh bien, oui, 5-6 heures. 5-6 voilà. Heures. Et c'est
tournage
vrai que,
ou pas tournage donc,
tournage ou pas tournage. Et là, c'est vrai que, si vous voulez, elle est venue dans le monde du cinéma pour ce film et on s'est tous dit, formidable, elle devient actrice. En mettant quelque part de côté toutes ces années d'entraînement et puis sa vie à elle. Et on a dû réajuster très très rapidement parce que évidemment son corps perdait en muscles, c'est-à-dire très très vite elle se regonfle d'eau et de sel et de graisse très rapidement. Et puis pour son mental aussi parce qu'il fallait respecter ce qu'elle était. Donc on a remis en place les entraînements et elle s'entraînait, oui, 6 heures par jour. Elle faisait 1h30 le matin. Elle venait se préparer comme une actrice aux loges. On faisait les scènes, on coupait pendant 3 heures, ce qui est très long au cinéma parce qu'en général on coupe 1 heure. Bien et sûr. Puis elle est de tous les plans, donc si vous voulez, voilà, il fallait réajuster aussi, se dire ok, bon, on tourne ces plans-là, tiens, on va inventer une séquence ici. Elle revenait, elle se repréparait, puisqu'évidemment douche,
bah, bien sûr, après l'entraînement, ouais.
Voilà, et puis après elle on se tournait, et puis le soir 1h30 de nouveau de cardio après le tournage.
Ça vous inspire quoi, Arturo Bacchetti?
Ça m'a fait un peu peur.
Non, c'est vrai.
Mais en effet, ça me fascine parce que moi, je pense que oui, le corps, il faut. Si tu veux quelque chose avec ton corps, il faut faire des sacrifices. Alors, tu vois, c'est tout à fait ça. Chaque chose a un prix. Alors, c'est belle, la vuoi venire, un peu devi soffrire. Alors, si tu veux être belle, un peu, il faut souffrir un petit peu.
Et alors, le film est aussi beau que l'univers qui est présenté. Non, d'ailleurs, il est même plus beau que l'univers qui est présenté. La photographie est extrêmement plasticienne. Vous tournez en scope des gros plans sublimes sur des corps complètement morcelés, avec des cadrages intrigants. Il fallait magnifier le sujet, parce que généralement, on peut avoir la tentation de montrer le côté sordide. Ça serait le gros cliché, bien entendu, sur...
Voilà. Et tout le film, tout l'enjeu du film, c'était de sortir des clichés et des préjugés sur ce monde-là. Donc, c'est vrai que je voulais... Bon, ne pas tomber dans le naturalisme et puis aussi dépasser le côté un peu glauque et amateur de ce monde-là.
Vous avez rencontré.
Oui, oui. Ouais. Oui, oui, comme je vous dis, entre les hôtels de No Man's Land et puis souvent c'est dans des gymnases et puis il y a un côté un peu amateur. Il y a qu'aux États-Unis vraiment et un peu dans les compétitions, celle de Schwarzenegger où là, voilà, on met les petits plats dans les grands. C'est vraiment à l'américaine. Mais sinon, oui, c'est plutôt cheap comme milieu. Donc là. Et le choix de l'hôtel, ouais. Et effectivement les lumières, la couleur du film. Pour moi, c'était important que ce soit voilà bigger than life, de penser les choses en grand et de pas se dire ah bah cette compète, elle a quitté tout ça pour ça. Bon, ça valait pas le coup. Non, se dire que ah oui, en fait, voilà, le niveau est haut, l'enjeu est grand. Enfin voilà, plus grand, plus fort.
Actrice dans la vie, elle vit de ses compétitions?
Non, c'est un milieu en fait qui brasse à la fois beaucoup d'argent, mais la plupart des athlètes ne font pas ça pour l'argent. C'est-à-dire, il faut vraiment être en professionnel. Et là, on a quelques chances, voilà, si on a la première place, d'avoir des sponsors, un chèque quand on gagne, tout ça. Mais sinon, non, tous les athlètes, et notamment Julia, travaillent à côté. Bon, elle travaille plutôt dans le sport, je dois dire. Elle est coach de temps en temps d'autres athlètes. Elle travaille dans une salle de sport. Là, elle revient à ses premières amours qui étaient la mode, le stylisme. Elle vient de là, Julia. Et elle vit de tous ses à côté.
Vous dites que très vite, elle a eu des tics d'actrice. J'aimerais bien savoir. Très vite, ouais, elle a eu des tics d'actrice et donc il fallait encore la dérouter pour ne pas la laisser entrer dans, trop dans son rôle, c'est-à-dire.
Vous voyez, on met en place une scène et puis on tourne très vite. On ne fait pas de répétition justement pour ne pas avoir de repères. Enfin, de voilà, on cherche ensemble. Et très très vite, elle se mettait dans la même place. Captait très très bien où était la caméra, se plaçait très bien par rapport à l'acteur. Et nous, on était très très mobiles, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on était à l'épaule, mais ça veut dire qu'on avait quand même une caméra, une place de caméra qui nous permettait vraiment d'aller chercher ce qui nous semblait le plus intéressant. Et très très vite, voilà, Julia, hop, elle se mettait dans sa place, elle refaisait exactement le même geste sur le même mot.
Mais comme dans les compétitions, en fait. Elle retrouvait la dynamique et la discipline des compétitions.
La discipline, exactement. Mmh. Et ça, il fallait tout le temps. Mais tout le film, aussi, un des enjeux, c'était ça. C'était de la faire sortir de cette maîtrise, de ce besoin de contrôle absolu, qui est vraiment le maître mot des athlètes. Et de laisser, justement, sortir les émotions, qu'il y ait des accidents qui soient créés. Parce que c'est ça aussi, de travailler avec des non-professionnels, avec l'enfant aussi, c'est d'être sur le coup pour, en fait, pour rattraper ces moments comme ça d'accident, de déstabilisation, bref, de garder le film vivant, parce que sinon, effectivement, on n'est que dans la plastique, et le film, c'est pas ça, c'est justement de, bah, d'émouvoir.
Arturo Brachetti, quand j'ai dit tic d'acteur ou d'actrice, je vous ai vu...
Bah parce que moi, alors je suis plein de tics, parce que dans le spectacle, je dois suivre des musiques, et alors je fais exactement le même geste, un même moment, etc. Je suis un peu comme le peintre chinois qui peint la fleur toute sa vie pour rejoindre la fleur absolue, parfaite qu'il va faire quand il a 92 ans, tu vois. C'est ça, par rapport à des autres acteurs qui après deux mois d'un spectacle, ils disent « Oh, je m'emmerde avec toujours le même spectacle !» Alors moi, par exemple, le one-man show, je l'ai fait depuis deux ans, celui-là, et je peux le faire encore 4-5 ans, et ça me plaît de mieux en mieux, tu vois.
Genre, je comprends. C'est vivant, Arturo Brachetti, absolument vivant.
Pour le moment, très vivant.
Très vivant.
Pearl, sortie en salle mercredi prochain. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est la dernière partie de la première partie du Énervé. Je sais que c'est toujours un peu compliqué. On retrouve Soro Solo pour la chronique.
Vous pourriez mettre un disque ?
Oui.
Rendez-vous ?
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je vais demander des nouvelles de celui-là.
Alors, chaque semaine, Soro Solo nous fait sortir du studio, pas vraiment, disons, par le moment, par la magie de la pensée, direction le Nigeria, ce soir avec vous, Soro Solo. Le Nigeria, on le sait, c'est l'un des plus grands pays du continent africain. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a plusieurs courants musicaux, mais vous avez choisi de vous focaliser sur l'afrobeat.
Oui, effectivement, il y a plusieurs courants, notamment la juju music, qu'on appelle aussi la palm wine music, la musique de vin de palme, qui est associée avec des rythmes traditionnels yoruba. Il y a également la Fujo musique qui, pareil avec les rythmes yoruba, va se fusionner avec les traditions islamiques. Mais si mon choix s'est porté sur l'afrobeat, c'est parce que non seulement elle a une qualité de création musicale exceptionnelle, mais aussi à une dimension sociopolitique dans les textes. Et la personne qui a développé ce genre musical, c'était dans les années 60, la fin des années 60, c'est Fela Anikulapo Kuti. Et c'est Fela Anikulapo Kuti a créé ce genre qu'il a utilisé comme une arme pour combattre les autocrates, tous les corrompus et tous ces gens, et tous ces régimes militaires qu'on a vus pousser partout en Afrique.
Whether you like or you don't like, after you hear this Sidru talk. Whether you like or you don't like, after you hear this Sidru talk. If you like it good, if you don't like you hang. If you like it good, if you don't like you hang. If you hang you go die, you go die for nothing. We go carry your body go police station, you die wrongfully.
Ça, c'est juste un extrait, hein, parce que les musiques de Fela Anikulapo Kuti, notamment ce titre Army Arrangement, c'est en deux pièces qui font à peu près 30 minutes.
Chacune, allez donc. Est-ce que ça veut dire que Fela Kuti a systématiquement dans ses textes dénoncé les régimes politiques, c'est-à-dire que des textes politiques?
Non, absolument pas, parce qu'il a passé aussi son temps à épingler tous ces Africains complexés dont il disait « il faut vous émanciper de votre mentalité colonialiste. Il faut sortir de vous-même et gagner votre identité africaine. » Et notamment, tous ceux qui complexaient se blanchissaient la peau avec des produits chimiques pour ressembler aux blancs. Et il a estimé que ces Africains étaient atteints d'une maladie, la maladie de la fièvre jaune.
different fiva na him dey. Different fiva na him dey. Different fiva na him dey. Malaria fivanko, jaundice fivanko, K fivanko, influenza fivanko, inflation fivanko, freedom fivanko.
Voilà, Yellow Fever, pour dénigrer tous ces Africains complexés qui décolorent leur peau.
Pour ressembler à des blancs, c'est quoi l'héritage de Fela aujourd'hui?
Ah, l'héritage de Fela, il est énorme. En plus, je veux dire, de 60 albums, peut-être même plus de 60 albums qu'il a laissés à la postérité, il y a ses deux enfants, l'aîné, Femi Kuti, et le Benjamin, Shane Kuti, qui ont repris le flambeau du pater. Et puis, Fela Nkolapo Kuti a fait école un peu partout dans le monde. Notamment à New York, il y a un groupe qui s'appelle Antibalas, ouais, qui fait exclusivement de l'afrobeat. Il y a aussi le Soul Jazz Orchestra de Montréal qui fait exclusivement de l'afrobeat. Et chez nous en France, il y a le groupe Fanga qui fait de l'afrobeat. Et l'un de ses anciens collaborateurs à la guitare, un certain Kiala, qui fait l'actualité aujourd'hui en France, a sorti un nouvel album qui est pur jus. Afrobeat de Fela à Nkolapo Kuti.
When I look at one map, only Africa is divided by a thousand borders used. Why? Can somebody tell me? Maybe I got the answer by myself.
Et voilà, Kiala and Afro Blaster, et il fait partie vraiment des gens qui tiennent la flamme de l'afrobeat de Fela à Nkolapo Kuti, genre qu'il a créé il y a 40 ans.
C'était donc un anniversaire qu'on fêtait aujourd'hui. Merci Soro Solo, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine chronique, l'Afrique en solo.
Hear me.
You Know I'm No Good, Amy Winehouse, au sommet de sa voix en 2006, un extrait de son album Back to Black. Et bien voilà, le NRV, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes, ce sera après le journal, avec ça.
Ce n'est pas le moment d'avoir peur, ni de reculer. Il est temps de respecter le peuple du Venezuela.
Venezuela, deux présidents, sinon rien. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.